Nous sommes invités à lire, chers invités, chers adorateurs, la lettre aux Romains, chapitre 6e, les versets 1 à 14, lecture qui va donc précéder la prédication de la parole. Lettre aux Romains, chapitre 6e, versets 1 à 14. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne ? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui ? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, réveillé d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous, vous-même, au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Que le Seigneur bénisse donc l'influence de sa parole dans nos cœurs. Amen.
Chers futurs baptisés, les membres de la famille, les amis, l'assemblée, bonjour à tous et bon sabbat. Commençons par une question. Avez-vous compris le texte que nous avons lu ? C'est compliqué, hein ? Paul est comme ça, souvent. Le baptême biblique est l'occasion pour celui qui le veut de se confier à celui qui peut le préserver du mal, ici nommé péché. D'un mal et d'une chute particulière, quand on entre dans les eaux du baptême, on n'est pas épargné par les misères, permettez-moi le mot, de la vie. Mais il semblerait, si l'on écoute attentivement ce texte, que nous puissions nous écarter de nos péchés et vivre ainsi dans la sainteté. Un texte donc intéressant et surtout fort utile. Parce qu'il vaut quand même mieux vivre sans le péché déjà aujourd'hui qu'avec lui dans notre existence. Et si nous devons retenir une première vérité liée au baptême, c'est celle-là. Dès lors que vous serez plongé dans ces eaux baptismales, vous ouvrez dans votre vie une nouvelle voie. Celle d'une vie dite sanctifiée dans laquelle comprenons le péché diminue chaque jour durant. Il est très facile d'affirmer cela du haut d'une chaire. Il est beaucoup plus difficile de le vivre dans la réalité de nos expériences chrétiennes. Et je suis convaincu que tous les baptisés qui sont ici pourraient abonder dans mon sens. Aussi, nous devons nous poser une question. Pourquoi est-il apparemment si difficile de pouvoir appliquer cette vie de sainteté dans notre existence dès lors que nous sommes baptisés ? Permettez-moi le rapport d'une expérience vécue par votre serviteur. Lorsque je me suis inscrit à l'université de théologie de Collonges, la faculté de théologie de Collonges, pour y suivre les études de théologie, l'une des joies était de pouvoir aller marcher au Salève, que certains connaissent probablement. Mais voilà que quand on est né dans le sud de la France, on a quelques difficultés avec les hauts sommets de la Haute-Savoie. Non pas que le Salève soit un haut sommet, mais quand même. Et nous voilà partis ce jour-là avec mon frère, un ami, cousin plus exactement, pasteur lui aussi en Fédération France-Sud maintenant, et heureusement un expert de la montagne genevoise et de celle-là en particulier. Et je me souviendrai toujours des chaussures de mon frère qui portait des chaussures de ville. Et nous voilà partis à un moment donné sur ce chemin dont j'oublie le nom, mais il est connu là-bas. Merci. L'Orgevet. J'avais oublié. Et nous montons au début assez facilement, mais la difficulté commence à gagner. Et voilà qu'à un moment donné, mon frère commence à glisser. Que faisons-nous ? Nous nous resserrons. Que faisons-nous ? Nous nous resserrons. Nous mettons la main sur l'épaule de l'autre et nous continuons ainsi. Mais voilà que mon frère continue à glisser au point que nous sommes obligés de nous attraper, de serrer nos mains. Et nous continuons à grimper. Et je ne sais pas si les conditions ce jour-là étaient particulières, voilà que frérot continuait de glisser, mais cette fois-ci de façon dangereuse. À tel point qu'il a fallu, entre guillemets, que le premier de cordée puisse s'accrocher à une rampe qui était d'ailleurs posée sur la paroi, le long de la paroi. Nous avons dû nous relier pour éviter que le frère ne tombe. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de regarder le principe de la sécurité ou sécurisation. Dans un premier temps, nous avons voulu nous débrouiller par nous-mêmes. Et nous avons bien dû constater au bout d'un moment que malgré nos efforts, notre attention tout du moins, nous n'y arrivions pas. Et nous courions au bout d'un certain temps un danger. Il a fallu donc renoncer à ses propres forces, à ses propres capacités, au mythe de vouloir dans pareille situation s'en sortir par soi-même et se réfugier. Je pense au Christ, pleinement dans ce premier de cordée. Il me semble que si nous appliquons cette anecdote au texte que nous avons lu, ce matin, nous trouvons là le moyen d'une application raisonnable et efficace dans notre vie. Oui, il y a de la place chez le chrétien, dans la vie du chrétien, pour une vie sanctifiée. Mais dès lors que nous nous imaginons que c'est par nos propres forces, par nos propres moyens, par nos compétences que nous allons pouvoir nous la réaliser, alors, de facto, nous nous écartons de ce chemin. Pour pouvoir vivre cette vie belle, parce que sans péché, il nous faut tout d'abord faire acte d'humilité, une humilité constante. Chaque jour se dire que nous ne sommes pas capables. Chaque jour vouloir s'accrocher par cette corde existentielle à ce premier de cordée qu'est Jésus-Christ et le laisser lui tracer le chemin, guider nos pas, fournir les efforts. J'aime ce passage dans les Écritures où on nous dit que la voie du péché est large et spacieuse, confortable. La finalité morbide. J'aime aussi ce passage qui nous dit que la voie de la sainteté est difficile, périlleuse. La finalité vitale. Lorsque la Bible nous dit que la vie de la sainteté est difficile, elle nous rappelle aussi, et ce sont là des mots de Jésus, que ces difficultés sont aussi comparables à un joug doux et léger. Il nous faut faire combiner les deux affirmations. Je crois que l'image convient parfaitement. Lorsque nous nous abandonnons à Christ totalement, lorsque nous relions la corde de notre vie à la sienne, eh bien tous les efforts, toutes les orientations, tout ce qu'il convient, c'est lui qui le produit. Nous ne faisons que suivre et nous nageons dès lors dans la grâce, contenue d'ailleurs dans ce passage. Vous savez que le Tour de France va commencer. C'est aujourd'hui, demain, je ne sais plus. Et si vous êtes amateur de cyclisme, vous avez remarqué, c'est d'ailleurs valable en Formule 1, que souvent lorsqu'on arrive vers la ligne d'arrivée, celui qui veut remporter le sprint qui s'amorce se place le plus longtemps possible derrière le premier. Et il veut bénéficier ainsi du phénomène d'aspiration. Vérifié, je le disais, dans le sport automobile. Là aussi, une image intéressante que nous pouvons, que nous devons appliquer dans notre existence si nous voulons vivre la sainteté ici décrite. Laissez le Christ prendre les rênes de votre existence, de notre existence. Et ne le laisser appliquer dans notre vie que sa volonté. C'est essentiellement cette orientation de vie-là que vous allez nous indiquer en passant par les eaux du baptême. Bien évidemment, il y a une part humaine. Il y a quand même quelque chose à faire de notre point de vue, si ce n'est que suivre, c'est-à-dire mettre un pas derrière l'autre, ceux du Christ. Et le texte à ce propos est d'ailleurs riche d'enseignements. Rapidement, je me permettrai de vous les indiquer. Si nous voulons être capables de suivre ainsi le Christ, si vous venez vous donner la chance de suivre ainsi le Christ et de vivre réellement cette vie sanctifiée, il faut dans un premier temps être capable de vous identifier à lui, de vous identifier à son existence, au témoignage de vie qu'il nous a laissé. Ce qui revient à dire, pour prendre un raccourci, que dès que la possibilité d'une rencontre avec lui vous sera donnée, il faudra la saisir par la lecture de la parole, par la fréquentation de ce temple ou d'un autre, par tous les moyens que nous connaissons, qui définissent notre piété dite chrétienne. Nous devrons, vous devrez, saisir la possibilité d'un contact et dès lors d'une identification avec la personne, le caractère de Jésus-Christ. Le deuxième principe qui m'apparaît clairement indiqué dans ce texte est toujours de l'ordre de l'identification. Passons de la vie à la mort et la résurrection. Si nous voulons vivre comme le Christ a vécu, il faut pouvoir nous identifier à son vécu. Il faut pouvoir connaître ce qu'il a fait et désirer, dans notre contexte, à notre époque, l'appliquer. Mais pour pouvoir réaliser ce suivisme, il nous faut aussi nous identifier à la mort de Jésus-Christ. Là aussi, un langage qui peut paraître curieux, théologiquement compliqué. Essayons de voir cela simplement ce matin. J'aime ces textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui nous disent clairement que la mort de Jésus-Christ est le lieu d'une malédiction parce que le Christ est cloué au bois. Et pour faire court, j'aime à penser que lorsque le Christ est cloué au bois, c'est pas tellement lui qui est cloué au bois, même si réellement c'est le cas. C'est plus exactement le péché qu'il symbolise, qu'il comprend à ce moment-là. Et ce qui meurt sur cette croix, en même temps que le Christ, c'est le péché qu'il contient, c'est-à-dire le tien, le nôtre. Du coup s'ouvre le chemin de la sainteté. Si tout ce qui fait obstacle à ma sainteté a été, il y a plus de 20 siècles de cela, cloué avec le Christ sur la croix, plus aucune barrière, plus aucune résistance ne peut m'être apposée dès lors que je m'associe, que je m'identifie à ce Christ au point de vouloir dans ma vie reproduire, appliquer la sienne. Voilà aussi comment comprendre la croix, comment s'identifier à la croix de Jésus-Christ et se dire même qu'au moment où le Christ mourait sur cette croix, c'est moi du moins mon péché, les péchés que j'ai faits hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain qui ont été cloués et donc maudits avec lui. Et enfin, et j'en termine, nous devons aussi nous identifier à Christ, à savoir désirer et accepter la puissance que lui-même avait et lui a permis d'accomplir cette vie prodigieuse, de se donner jusqu'à ce point à la croix et même de ressusciter. Je veux parler de l'Esprit Saint. Et lorsque vous allez passer par les eaux du baptême, non seulement vous allez vouloir laisser le Christ diriger votre vie et la sanctifier, non seulement pour cela vous allez vouloir accepter, vous identifier au Christ sur la croix, mais vous allez aussi, parce que tout cela, désirer et recevoir la puissance que le Christ avait et l'autorisa à vivre ainsi, l'Esprit Saint. Seule puissance capable de nous formater pour vivre selon les désirs et la volonté de notre Père, manifesté en Jésus-Christ. Alors si j'avais une prière à formuler ce matin pour toi Edwin, pour toi Fabrice, eh bien ce serait qu'au moment même où vous allez passer par ces eaux dites baptismales, vous puissiez vivre concrètement, simplement, tous les symboles, toutes les orientations de vie que ce geste, que ce rite vous propose. Amen.
À la suite de cette prédication, nous allons avoir la joie maintenant d'écouter la chorale nous interpréter un chant intitulé « La prière ».
Tout puissant.
Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, donc vous avez entendu les professions de foi exprimées, donc nous allons nous préparer maintenant pour l'immersion qui va suivre.
Dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être. Que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui,
persévère, persévère.
Elle s'accomplira.
Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh.
Car ce qu'il promet, mon cœur n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, 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 oh.
Quand il dit, la chose arrive.
Quand il ordonne, elle existe.
Oui, son regard est sur ce qui lui appartient. Sur ce qui lui appartient. Oh, oh, oh. Persévère. Persévère, encore une fois.